Bonjour tout le monde et bonjour Jérémy, comment vas-tu alors aujourd'hui?
Bonjour tout le monde, très très bien, merci, heureux d'être là.
Alors, est-ce que d'abord tu pourrais te présenter Jérémy auprès de nos auditeurs, auditrices et aujourd'hui viewers aussi, s'il te plaît?
Avec plaisir. Donc, moi je m'appelle Jérémy Goldin, je suis UX UI designer. Je suis aussi dirigeant en fait de la société Digital Rise, donc c'est une toute petite entreprise. Qui a pour but d'aider les gens et les entreprises à développer des produits digitaux. Et je suis aussi YouTubeur en herbe, où j'aborde les sujets du UX UI aussi. Et alors, peut-être un point important, c'est que je suis fort sensibilisé en fait par toutes les questions environnementales, énergie et tout ça durable. Et donc, on est membre en fait de 1% for the Planet. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui a été créée par Patagonia et qui regroupe en fait des entreprises, des institutions et qui reverse en fait 1% de leurs revenus, donc pas des bénéfices, vraiment des revenus, à d'autres associations qui œuvrent pour lutter contre le réchauffement climatique et tous ses impacts. Voilà.
D'accord. Et vous êtes combien de dans l'agence à peu près? Vous êtes combien de personnes?
Alors, on a une petite dizaine, donc on est organisé en freelance, donc il n'y a que des freelances dans l'agence, et on a tous les différents types de domaines d'expertise, donc le UX design forcément, mais on a aussi le copywriting, SEO, marketing digital, vidéo montage et le front-end développement.
Voilà, d'accord. Et donc, comme je le disais juste avant l'enregistrement, toi, tu es à côté de Bruxelles, hein, c'est ça, hein?
C'est ça,
Voilà, voilà.
en Belgique.
Voilà, tout à fait, absolument. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une méthodologie que tu as mis en place. Et ce qui serait d'abord intéressant, c'est peut-être de savoir pourquoi tu l'as créé et quand est-ce que tu l'as créé, en fait, s'il te plaît.
Alors, donc j'ai commencé à travailler dessus en 2013 et aujourd'hui, donc j'utilise en fait de manière systémique. Je l'enseigne aussi à travers une formation que j'ai créée, qui s'appelle la UX Academy. Et je continue en fait à faire évoluer cette méthodologie.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sans rentrer absolument dans les détails, la structure de la méthodo, par exemple, ou des choses comme ça?
Ouais, je peux peut-être aussi d'abord expliquer en fait la raison pour
Oui,
laquelle
tout à fait. Ouais.
je l'ai créé. En fait, au début, il n'y avait pas vraiment de structure pour faire du UX design. Je suis sûr qu'ici, tout le monde peut un peu se reconnaître par rapport à ça. Donc, c'était un peu compliqué. On a un peu l'impression qu'on réinvente à chaque fois la roue. Et c'était un peu problématique. Donc, j'ai commencé à chercher en fait pas mal de documentation. Et donc, j'ai trouvé des modèles, par exemple, comme le Double Diamond, le Design Thinking, etc. Mais en fait, ce n'était pas assez précis pour moi. Ou alors, c'était généralement décorrélé des différents objectifs en fait, que je devais atteindre, vraiment en termes de résultats, quoi. Et donc, ça, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que le client, lui, ce qu'il attend, bah, forcément, c'est des résultats. Et c'est compliqué de Enfin, entre les différents clients, c'était vraiment compliqué de ne pas avoir une approche systémique, quoi. Parce que, en fonction, par exemple, du stade du projet, bah, c'était toujours. Enfin, on ne fait pas exactement la même chose en fonction du stade du projet en tant que UX designer. Et donc, du coup, bah, pour moi, c'était important de mettre en place une méthodologie. Parce que je suis scientifique de base, en fait. Et donc, du coup. Pour moi, ça avait pas de logique de toujours en fait partir d'un point différent et de réouvrir en fait à chaque fois la boîte de Pandore. Donc, je voulais vraiment avoir une approche systémique. Donc voilà, ça c'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé en fait cette méthodologie.
D'accord. Et donc, tu nous disais, oui, ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui. Et est-ce que ça répond mieux aux besoins du client? Et par rapport à toi, est-ce que tu es aussi plus à l'aise avec cette méthode?
Oui, complètement. Donc, comme j'expliquais, donc avant, J'essaie de répondre en fait, toujours un peu aux besoins du client. Donc, j'essaie d'être précis par rapport à ce qu'il voulait. Mais voilà, ça n'avait pas trop de sens, comme je viens juste de l'expliquer. Et ensuite, aujourd'hui, comme j'ai cette méthodologie, je peux vraiment m'appuyer sur quelque chose que j'explique en fait aussi au client. Et donc, du coup, c'est un peu comme des étapes à suivre, un peu comme, comme une recette de cuisine. Et donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour moi, c'est beaucoup plus simple pour le client. C'est aussi beaucoup plus clair, en fait, pour le client.
D'accord. Tu leur en parles aux clients, en fait, de cette méthode. Tu leur dis que tu vas t'appuyer sur une méthode que toi, t'as mis en place.
Oui. Alors, je ne dis pas nécessairement que c'est moi qui l'ai mise en place, mais j'explique, en tout cas, j'explique l'approche, quoi.
D'accord. OK. D'accord. Maintenant, ce serait peut-être intéressant de nous dire, en fait, de nous révéler comment tu as créé cette méthodologie et quelles sont les bases de recherche, en fait, de cette méthodologie, s'il te plaît.
Alors, tout d'abord, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai regardé toutes les différentes ressources, notamment les livres qui étaient disponibles, en fait, sur le UX design. Donc, par exemple, il y a le livre de méthode UX ou méthode UI de Karine Lallemand, de Guillaume Grenier. Mais, par exemple, ce genre d'approche, pour moi, était très UX. Donc, c'est très bien pour un expert. Mais pour le coup, pour globaliser, généraliser, entre guillemets, une approche, ça ne répondait pas, en fait, à ce dont j'avais besoin. Donc, du coup, en fait, j'ai lu encore d'autres ressources relativement classiques comme le 100 Things Every Designer Should Know About People, qui est beaucoup plus, en fait, sur l'aspect comportemental. Donc, ça, c'était très intéressant, mais ça restait, entre guillemets, aussi très, très scientifique. J'ai lu aussi, après, toute la saga Aurélie. Donc là, la saga Aurélie, je trouve que c'est vraiment les différentes ressources qui m'ont le plus éclairé sur une première approche systémique. Donc, dans la saga Aurélie, on va avoir le Lean Customer Development, où on voit en fait toutes les relations entre le design et la phase de recherche client. J'ai aussi lu le Lean Analytics, qui explique comment est-ce qu'on va mettre en place des systèmes de mesure. Donc ça, c'est super intéressant en termes vraiment d'analytique. Donc voilà, en fait, enfin, j'ai pas cité tous les livres. Il y a quand même encore Running Lean d'Ash Moria, qui pour moi en fait est super intéressant dans la base de la création de projets digital afin de valider en fait les différentes hypothèses qu'on a dans l'aspect d'un projet digital. C'est vraiment en fait pour moi un peu l'application du Lean Startup. Et en fait, en mettant tout ça sur la table, j'ai créé une première approche, une première hypothèse en fait que moi-même aussi j'avais par rapport à ce que je voulais faire. Et je l'ai testé, je l'ai mesuré et je l'ai validé pendant presque 4 ans pendant 4 ans, je l'ai vraiment travaillé. Et j'avais la chance en fait de pouvoir le faire parce que j'étais à ce moment-là, j'étais head dans une société digitale. Où on avait en fait beaucoup de projets. Et on avait des projets vraiment différents en fait, que ce soit pour des pouvoirs publics, pour des startups, pour du corporate, des petits projets, des gros projets, et tous en fait avec des stades de maturité différents. Donc c'était vraiment super intéressant à tester. C'était vraiment un peu le laboratoire pour faire ça. Par exemple, en fait, je testais le comportement des gens. Où je faisais des tests utilisateurs avec des prototypes basse fidélité versus haute fidélité, avec du vrai contenu versus du faux contenu. Ce que je faisais aussi, c'est que je modifiais en fait l'ordre des questions durant les interviews utilisateurs. J'ai inclus aussi des faux personas, donc j'ai inclus vraiment des personas qui n'existaient pas en fait dans notre cible pour voir, est-ce que vraiment, on nous dit toujours, ouais, il faut qu'on soit strict par rapport à notre persona et tout ça. Et je ne sais pas, moi, par exemple, je me rappelle dans le cas d'un projet aérien, j'ai inclus en fait des personas mais qui n'avaient rien à voir en fait avec notre cœur de cible. Et bon, ben, en fait, on se rend compte que nos personas, finalement, c'est quand même vachement important. Quoi, parce que les gens racontent un peu n'importe quoi du coup. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre les personas qu'on target et les gens en fait qui finalement n'ont rien à voir du tout. Et tout ça en fait vraiment dans le but de tester des choses. Comme j'ai dit, je suis un scientifique et c'est important, je trouve, d'avoir une approche où on peut mesurer, tester et valider en fait ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et donc voilà, ça c'est un peu le cœur, on va dire, de la création de la méthodologie.
D'accord. Et donc ça veut dire que tu avais une approche avec cette méthode selon les différentes typologies de sociétés, start-up. Je ne sais pas, grande entreprise, publique, privée, etc. Et est-ce que tu avais une approche qui était identique avec les mêmes sociétés ?